Au Capi Service, jeudi Daniel Kachama.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment réussir l'insertion professionnelle des jeunes Congolais? On en parle aujourd'hui dans la première partie de cette émission avec Monsieur Jean-Robert Issifoi, qui est le président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services CCIC RDC. Des questions et préoccupations, le standard est ouvert, composé les 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Comment lutter contre la déforestation causée par l'agriculture sur brûlis? Ce sera le deuxième sujet de votre émission à partir des 11h05 heure de Kinshasa. On en parle avec le professeur Michel Mumba, expert en agroforesterie, et monsieur Didier Macal, journaliste environnemental. Des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert, composez le 099-706-9941, écrivez-nous à service@radiocapi.net et postez, laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Capi Service. Pierre Diassinois assure la mise en onde de cette émission. Tati Mapoukou est à la coordination et à la réalisation. Micro jeudi Daniel Kachama, bienvenue à tous. Et tout le plaisir est pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à tout à l'heure.
Au Capi Métissage, fais le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Au Capi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Capi.
Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, fidèles auditeurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'insertion professionnelle des jeunes Congolais. Vous savez, de nombreux jeunes diplômés congolais sont butés à d'énormes difficultés dans leur recherche d'un emploi stable et décent au sein des entreprises privées et publiques. Bon nombre d'entre eux se retrouvent carrément au chômage après leurs études universitaires. Par ailleurs, les exigences des recruteurs d'avoir au moins 5 ans d'expérience professionnelle découragent plusieurs. Certains jeunes pensent carrément que le travail se donne sur base des affinités amicales ou familiales. Comment aider les jeunes à développer leur employabilité et à favoriser leur insertion professionnelle? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Jean-Robert Issifoi, qui est directeur général de la Société des Communications et des Services. Et il est en même temps président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services. Monsieur Jean-Robert Issifoi, bonjour.
Bonjour. Et
bienvenue dans cette émission au Capi Service.
Merci.
Bien, alors, nous parlons aujourd'hui de l'insertion des jeunes en milieu professionnel.
D'accord.
Qu'est-ce que vous pouvez-vous nous en dire un peu plus? Parlez-nous d'abord de la Chambre des Commerces dont vous êtes président. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos objectifs, etc.?
Bon, écoutez, vous avez constaté que j'ai deux casquettes.
Oui.
Et donc, la première casquette, c'est en tant que chef d'entreprise. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans maintenant, que je conduis ma plus ancienne société, dont vous avez parlé tout à l'heure, la Société de Communication et de Services, SCS, et elle est spécialisée dans la gestion de ressources humaines. Nous travaillons beaucoup dans la sous-traitance du personnel. Ça veut dire que nous fournissons les meilleures compétences aux entreprises qui cherchent, qui en cherchent. Et cela dans divers secteurs d'activité, particulièrement dans le secteur bancaire, dans le secteur de la construction, parce que nous travaillons par exemple avec l'une des plus grandes sociétés, l'un des plus grands groupes de notre pays ici, et donc nous vivons effectivement depuis plus de 20 ans cette situation. Nous sommes confrontés depuis plus de 20 ans maintenant à cette situation de l'insertion, l'intégration des jeunes dans le monde du travail.
Alors, quel état des lieux vous faites de cette question de l'insertion des jeunes dans le monde du travail? Comment se présentent les tableaux aujourd'hui?
Bon, il y a beaucoup de jeunes qui terminent leurs études, qui sont porteurs de diplômes, soit de graduat, soit de licence. Déjà, au niveau de graduat, ça pose un vrai problème, puisque, comme vous le savez, il leur est demandé de prendre 2 ans
de stage
pour revenir, pour pouvoir revenir en première licence et continuer le cursus universitaire, ce qui pose vraiment un vrai problème. Tout simplement parce que l'État n'a pas en même temps mis en place des structures, des moyens, un environnement permettant aux jeunes qui terminent leur graduat de pouvoir avoir la chance de trouver du stage dans telle ou telle entreprise, parce que ce n'est pas toujours chose facile. Et donc, beaucoup de jeunes décrochent déjà au niveau de graduat parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver des stages professionnels auprès des entreprises concernées. Je pense que l'État devrait se concerter avec les entreprises de la place pour voir avec elles comment absorber les jeunes qui terminent leurs études au niveau de graduat et qui sont à la recherche des stages professionnels pour intégrer, pour finalement répondre à l'exigence qui fait que 2 ans après, ils puissent poursuivre leur cursus. Ça, c'est la première chose. C'est pas difficile, hein. L'État est là, il peut inviter le ministère concerné, en l'occurrence le ministère de l'Emploi, le ministère de l'Éducation nationale. Autrefois, il y avait le ministère de l'Insertion sociale, de l'Insertion professionnelle, qui n'existe plus dans ce gouvernement. Et donc, voilà, il faut une concertation avec les entreprises qui sont les pourvoyeurs d'emploi pour voir la possibilité d'insérer les jeunes qui terminent leurs études au premier niveau, donc graduat, et ensuite ceux de licence, parce que même ceux-là qui ont terminé leurs études en licence n'arrivent pas à trouver du travail à cause de ce que vous avez déjà évoqué, à savoir l'exigence de l'ancienneté. Mais généralement, l'avantage du stage, c'est quoi? L'avantage du stage, c'est d'abord le fait pour le jeune de découvrir le fonctionnement d'une entreprise. Comment ça se passe dans une entreprise? Parce que souvent, on ignore les réalités du terrain. Et donc ensuite, le plus grand avantage, c'est que une fois que tu es dans l'entreprise, combien même tu serais un stagiaire professionnel, tu rencontres les directeurs, les cadres, les autorités de l'entreprise. Ils te découvrent, ils te voient, ils ont l'information sur toi. Si tu te distingues pendant ta période de stage, moi je peux vous dire que...
Dès qu'il y a une vacance, on peut te rappeler.
Oui, et même s'il n'y a pas de vacances, l'entreprise va s'arranger pour vous retenir. On ne fait pas partir quelqu'un de compétent. Déjà, la question pour trouver les meilleures compétences dans notre pays, c'est pas C'est pas une question seulement de notre pays, hein. Oui. Partout dans le monde, hein. Même en Europe, il y a une crise de capital humain assez importante. Et donc, pour trouver des personnes sérieuses qui sont réguliers, qui arrivent à l'heure, qui sont là, proactifs, prêts à servir,
travail,
oui. Qui font bien leur travail, etc. C'est pas donné. Et donc, quand vous trouvez une personne pareille, vous êtes chef d'entreprise ou directeur d'un département, un responsable hiérarchique, ce qu'on appelle N plus 1 ou N plus 2, vous n'allez pas vous séparer avec... Cette personne. Alors, même il serait stagiaire.
D'accord. Et, au niveau de la Chambre des commerces aussi, vous vous occupez de l'employabilité des jeunes.
Bien sûr. Alors, notre Chambre de commerce, comme son nom le dit, nous sommes la Chambre de commerce d'industrie et de services. Et c'est vrai que le travail s'organise pour donner du travail aux Congolais, il faut qu'il y ait une organisation, à la fois du côté des personnes qui sont pourvoyeurs d'emplois, en premier l'État, et ensuite le secteur privé. Il faut qu'il y ait une organisation et une mobilisation de moyens qui va mettre... C'est pour ça qu'il y a des agences comme ONEM aujourd'hui. Je prends un exemple.
De l'emploi.
Oui. Mais il peut y avoir d'autres structures comme la structure sur qui aide les jeunes à créer leurs entreprises. Je crois que ça s'appelle
l'ARSP.
L'ARSP, bon là c'est
l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé.
Oui, bon là c'est lui donne pas du travail.
Nous avons aussi l'ANADEC, l'Agence nationale
Je parlais justement de l'ANADEC.
D'accord.
Par exemple, ce sont des structures intermédiaires qui peuvent être utiles pour l'employabilité des jeunes. Et donc ils doivent se montrer dynamiques, et surtout se montrer dynamiques, ça veut dire quoi? Être en relation intense, importante et permanente avec les entreprises, parce que ce sont les entreprises d'une part, et d'autre part il y a la question de la réglementation, la question de la réglementation qui faciliterait le travail, l'employabilité des jeunes Congolais. Pourquoi je dis ça? Mais parce que quand vous regardez dans le secteur minier, par exemple, aujourd'hui, dans le secteur minier, vous prenez des sociétés comme MMS, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, qui ne sévère à Lubumbashi. Pour ceux qui connaissent Lubumbashi,
oui.
Vous entrez là, c'est vrai qu'il y a des Congolais, beaucoup de Congolais qui y travaillent, plus de 1000 personnes. Mais vraiment, c'est dans des secteurs de support, okay. Dans des activités de support, jardinier, nettoyage.
Mais ils sont pas dans la direction, il n'y a pas de cadre.
Il y en a, mais très peu. Parce que moi, je dis des choses que je constate. Quand je regarde dans mon LinkedIn, je vois par exemple la même société qui fait appel à des jeunes universitaires chinois pour venir travailler dans cette société. Bon, moi, ça me dérangerait pas, mais je me pose seulement la question de savoir où se trouve la place des jeunes Congolais dans cette société, par
bien
exemple,
sûr.
Ou dans ce secteur d'activité. Autant on peut avoir l'ouverture, ce qui est normal. Hein. On peut pas s'enfermer et travailler qu'avec les Congolais. Ça, c'est pas possible. On doit recevoir également d'autres compétences. Mais où est la place des Congolais? Je pense que le gouvernement, sa première responsabilité, c'est de s'occuper des Congolais. C'est sa première responsabilité.
Bien sûr.
Et c'est là où il doit répondre. Quand on fait des élections, ce ne sont pas des Chinois qui votent, c'est des Congolais qui votent, qui choisissent telle autorité congolaise. Et je pense que chacun de nous doit assumer ses responsabilités. Et c'est quand même assez curieux de voir que dans des secteurs d'activité, là où on peut absorber des milliers, des centaines, des dizaines de Congolais pour leur donner la possibilité non seulement de trouver du travail, mais d'apprendre des métiers qui sont importants dans notre pays. Les Congolais, ils ne sont pas trop là-bas.
D'accord. Et, est-ce que ces entreprises minières, par exemple, organisent des stages pour les jeunes Congolais? C'est pas évident.
Mais hein. Vous savez, hein, déjà.
Un instant, Monsieur Jean-Robert. On va accueillir les auditeurs. Jérémy Mwamba et Ismaël Mumpo, ils sont tous à Lubumbashi. Jérémy, bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour Monsieur Jody, bonjour également à l'invité. Donc je voudrais d'abord, j'avais une petite préoccupation, c'est quant à la situation donc soit qui traverse notre pays dans cette matière d'employabilité. Donc ça veut dire que nous sommes en train peut-être nous-mêmes de nous mettre un peu le bâton dans les roues, dans le sens où le chef de l'État a eu à dire bon, il doit peut-être éradiquer ou soit en découdre contre ces problèmes de n'est-ce pas de chômage et employer plusieurs jeunes. Mais il se fait que malheureusement les jeunes sont butés à des sérieux problèmes. C'est quoi exactement? Lorsque un jeune, par exemple, il a étudié, il a terminé, il a fait des études, mais qu'est-ce qui fait que bon, quelqu'un qui a passé tout son temps de stage, mais comment il n'arrive pas à maîtriser ce pour lequel il a été là-bas tous ces temps, soit en train d'être formé, il prend 3 ans, il prend 5 ans, mais comment il ne peut pas être en mesure d'être pris directement? Il doit d'abord attendre 5 ans d'expérience. C'est là que nous disons que nous devons revoir notre système éducatif et voire même des formations qui accueillent ce jeune-là. Comment on peut faire? Il faut peut-être, à partir du moment où on entre à l'école, par exemple, vous êtes dans une section technique, mais on ne doit pas attendre aller à attendre troisième année ou soit première aujourd'hui pour aller pour commencer. On peut déjà commencer au niveau de septième, huitième. Directement, l'enfant commence déjà à maîtriser ça. Vous embrouillez les enfants, on embrouille les enfants avec des géographies étrangères qui ne profitent rien effectivement aux enfants. C'est pourquoi les enfants ne maîtrisent pas leur domaine réellement. Nous devons repenser notre système éducatif, commencer à donner un programme au diapason des attentes de la population ou de ces jeunes-là qui doivent travailler. Comment on termine les études? On n'est pas à mesure. Et on voit même dans les universités aujourd'hui, un jeune qui termine, qui doit créer de l'emploi, mais il n'est pas à mesure de créer son propre emploi. Donc ce qui veut dire que c'est notre système qui est biaisé, qui n'est pas bien tissé. Il faut que nous revoyons les choses et pour pouvoir, n'est-ce pas, employer ce jeune-là. Et il y a un autre problème. Vous prenez les étrangers. Bon, quand vous allez à Tink, vous allez dans d'autres entreprises. J'ai entendu l'invité parler des MMG et les autres. Mais comment vous, les Congolais qui sont vraiment ceux-là qui votent nos autorités, eh bien, il revient aux autorités d'être redevables à cette population. Lui rendre l'ascenseur. Comment lui rendre l'ascenseur? C'est à partir du moment où ils sont employés et on crée de l'emploi pour ces gens-là, pour qu'ils soient totalement occupés et le pays va déclencher son développement. Le développement, nous n'attendrons pas lorsque nous irons au ciel. Tout commence maintenant. Et maintenant, là, c'est comment nous devons commencer à mettre des jalons capables de booster notre économie à travers ces jeunes qui sont l'espoir de demain, qui doivent remplacer ces autorités qui sont là et présentement. Donc, ça veut dire que nous devons vraiment totalement délivrer ce secteur et que maintenant l'emploi soit une affaire de tout le monde pour que les jeunes qui terminent soient à même de travailler. Les créer des écoles techniques. Les écoles techniques, pas embrouiller les enfants avec d'autres sections qui ne les avancent pas.
D'accord. Merci beaucoup Jérémy Mwamba de Lubumbashi. On va prendre également un autre auditeur de Lubumbashi, Ismaël Mumpoi. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kacham. Bonjour à tout le monde.
Quelle est votre question?
Oui, comme je commentais sur la page, je pense que tout ceci devait dépendre du ministre du Travail. Parce que nous nous retrouvons parfois ceux qui travaillent, c'est comme s'ils ne travaillaient pas. C'est ça le premier grand problème de ce que nous avons. Plus part d'offres que nous avons, c'est pour les privés. Et non pour les services publics. C'est là, c'est lui qui a son travail, a ses exigences. Mais vu ses exigences aussi, il y a le ministre du Travail. C'est celui qui pouvait s'en charger pour tirer quand même l'équilibre de l'offre.
Ismaël, dites-nous, les entreprises minières, par exemple, au Katanga, est-ce qu'il y a des possibilités d'aller passer les stages? Et après les stages, est-ce qu'il y a, on peut vous retenir?
Oui, je pouvais même en venir sur la base de ce qui se passe là. C'est facile de faire un stage et parfois d'être engagé. Mais les problèmes qui se posent, comme la thématique est soulignée là, nous avons un problème de tribalisme qui ne dit pas comme une institution bien organisée en RDC. C'est ça encore un problème. Bien qu'il y a des privés, et nous-mêmes citoyens congolais, nous sommes divisés. Et ce n'est pas sur base des compétences qu'on peut engager une personne ici, à Lubumbashi, à Kolwezi, partout. On va te suivre par les noms plutôt que par votre compétence. C'est ça la première des choses. La facilité d'être engagé, oui, c'est normal. Même présentement, dans mon quartier, il y a une société qu'on travaille par les Noirs, c'est les Congolais. Pas un Blanc, pas un Indien, pas un Chinois, non. Ce sont les Congolais qui travaillent. C'est ce qui montre que, bien qu'il y ait des difficultés, mais les Congolais ont la possibilité de travailler. Mais comme M. Jérémy vient de dire, pour créer des écoles techniques, oui, cela ne suffisait pas. Il avait fallu qu'on ait aussi une branche de l'apprentissage professionnel. Et cela devait être encore réglementé par l'ONEM. Vous voyez, quand nous avons besoin d'un emploi, les triages pouvaient venir de l'ONEM, parce que c'est là où nous, les chômeurs, nous allons chercher la carte. S'il y a l'offre, on peut nous brancher. Mais malheureusement, si vous vous demandez si la carte dont l'ONEM livre aux chômeurs, mais il n'y a pas la réalité. Moi, j'ai cette carte, ça fait autant d'années, même pas même un appel.
On vous a jamais appelé
pour terminer, je pense que l'invité qui est au studio pouvait spécifier un peu certaines choses. Pourquoi on exige, par exemple, 8 ans, c'est lui qui quitte le banc de l'école? C'est incompréhensible.
Merci,
Ismaël. Il a fallu assez qu'il y ait l'équilibre.
Merci beaucoup.
Pour les années.
Merci beaucoup, Ismaël. Merci bien. On va donner la parole à Junior de Kananga. Bonjour, Junior.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre question rapidement par rapport à l'insertion professionnelle des jeunes?
Oui, j'ai deux petites questions. Mais avant, je crois que le gouvernement devait revoir les choses. Il faut qu'il y ait adéquation entre la formation et l'application. Je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'accueillir bon nombre d'étudiants dans des universités, bon nombre d'élèves dans des écoles, et sans métier, vous voyez ce que ça fait.
Bien, il faut qu'il y ait adéquation entre la formation. Oui. Quelles sont les deux petites questions rapidement?
Et l'application. Bien sûr. Personnellement, je prends mon cas. J'ai été une fois stagiaire dans une entreprise ici sur la ville, c'est la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo. Moi qui pensais que après la période de stage, je devrais être embauché, mais malheureusement, j'ai été insatisfait de la réponse qui m'a été donnée. Je crois que l'emploi en RDC dépend du népotisme plutôt que de la compétence.
Bien, ça c'est votre avis. Merci d'avoir appelé Junior de Kananga. Monsieur Jean-Robert Issifoua, vous avez la parole.
Très bien. Beaucoup de choses, hein. Ils ont parlé de beaucoup de choses et je pense que tout ce qu'ils ont dit, c'est lié, aux réalités de leur vécu, hein. Donc, on ne peut qu'en tenir compte. Mais moi, je pense que il y a beaucoup de confusion dans le sens où une entreprise n'engage pas parce que elle a envie d'engager ou parce qu'il y a un candidat qui se présente devant ses portes et puis on l'engage tout de suite. Non, c'est pas comme ça. Une entreprise engage quand elle est dans le besoin. Quand il y a une exigence, un intérêt d'engager.
Et recherche les gens qui répondent à un certain profil.
Qui répondent à un certain profil. Il y a cette exigence-là de l'adéquation. On a parlé de l'inadéquation, mais il y a cette exigence-là de l'adéquation, de la formation, du profil du candidat par rapport aux besoins attendus par l'entreprise. L'entreprise engage quand elle est dans le besoin. Si elle n'est pas dans le besoin, elle n'engage pas parce que engager a des coûts. Quand tu engages quelqu'un, quand une entreprise engage quelqu'un, ça représente un coût important pour l'entreprise parce qu'il faut payer les impôts avec autant de pourcentage. il faut payer d'autres charges salariales. Et donc, sans parler de questions de prise en charge médicale, enfin, toute la série des exigences qui sont portées par les chefs d'entreprise. Alors, ça veut dire quoi?
Oui.
Ça veut dire que pour que l'entreprise engage, d'abord, il faut qu'il y ait, moi, je pense, cette question de la résorption du chômage pour trouver du travail pour les jeunes. Mmh. Je pense que effectivement, il faut qu'il y ait une réforme importante dans le système de éducatif de notre pays, ça c'est sûr. L'enseignement, les personnes, le ministre ou le ministère de l'Éducation doit être absolument en relation avec les universités et les instituts supérieurs pour préparer les étudiants demain à trouver du travail qui correspond aux attentes des entreprises pour éviter cette question de l'inadéquation.
Oui.
On en a parlé depuis des siècles. Mais il y a aussi la question de l'économie. Il faut qu'il y ait la croissance économique dans le pays, parce que la croissance économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les affaires tournent. L'entreprise, pour qu'elle engage, il faut que son carnet de commandes soit rempli. Si son carnet de commandes n'est pas rempli, s'il gagne pas de marché, s'il ne vend pas ses produits qu'elle met à la disposition des consommateurs, si tout ça ne tourne pas, elle ne pourra pas avoir l'intérêt d'engager. Parce que comment va-t-elle faire pour payer ceux qui sont à la recherche d'emploi? Donc il faut que l'économie du pays tourne aussi.
Oui.
Sinon, si l'économie du pays n'arrive pas à absorber, il faudra qu'on réfléchisse sur d'autres possibilités de donner du travail aux Congolais. Et là, par exemple, on a développé l'idée, aujourd'hui c'est à la mode, la création de l'entrepreneuriat. Ça veut dire la création de sa propre entreprise, sa propre activité. Et donc ça.
Et dans la chambre de commerce, vous encouragez les jeunes à créer, à devenir créateurs.
Oui,
de leur structure.
Oui, bien sûr, c'est encourageant. On encourage ça c'est bien sûr que on le fait. Et je pense que c'est à la mode, c'est tout le monde qui parle de ça. Je suis entrepreneur, surtout les jeunes femmes, etc. Et c'est très bien, c'est encourageant. Il faut y aller. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est que un entrepreneur, généralement, le candidat à l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées dans la tête, qui a beaucoup de projets, et donc ça foisonne dans son esprit. Mais malheureusement, dans ses poches, il n'y a pas grand-chose.
Il n'y a pas assez d'argent.
Les poches sont vides.
Oui.
Et donc, ils ont un problème d'argent.
Oui.
Beaucoup d'idées, moins d'argent, ça ne permet pas de créer une activité.
Vous êtes bloqué.
Et donc, c'est pour ça que les structures comme Anadec et bien d'autres peuvent être utiles dans l'aide et l'accompagnement de jeunes, de ceux et celles qui veulent créer leur propre activité pour ne pas tomber sur toutes ces difficultés, ces obstacles auprès des entreprises existantes.
Alors, M. Jean-Robert, un cas pratique, comment CS, par exemple, l'entreprise dont vous êtes manager, comment vous faites pour insérer les jeunes dans le monde professionnel? Comment vous arrivez à les placer? Par exemple, dans les secteurs bancaires et autres.
Mais parce que, justement, je disais tout à l'heure, la question de l'emploi nécessite une organisation. Donc, une mobilisation, une organisation qui permet que les gens puissent trouver du travail. Notre but, c'est quoi dans SES? Nous sommes des intermédiaires, nous jouons à l'intermédiation. Nous sommes en relation avec les demandeurs d'emploi et nous sommes en contact également
avec
les entreprises qui donnent du travail. Et donc, on cherche à rencontrer ces deux entités, ces deux éléments, si je puis dire, pour que les personnes qui cherchent du travail puissent arriver chez les instituts, les structures qui sont à la recherche des compétences, en l'occurrence les entreprises. Mmh. Parce que c'est pas facile quand on est demandeur d'emploi de franchir les guérites des entreprises pour lesquelles, auprès desquelles tu vas chercher du travail. Il y a des gardiens, il y a des policiers,
oui, et quand vous arrivez, vous voulez voir qui, est-ce que vous avez rendez-vous ou
pas? Oui, vous arrivez dans un immeuble de 15-18 étages, oui. Vous ne savez pas là où vous allez pour rencontrer le directeur de ressources humaines et qui va vous autoriser de la rencontrer, c'est tout un problème. Notre travail, justement, c'est de faciliter ce travail-là aux demandeurs d'emploi. Nous faisons ces démarches à leur place et nous leur trouvons des compétences. Aujourd'hui, SES est connu. Nous existons depuis plus de 20 ans. Les entreprises nous font confiance.
Combien de jeunes déjà insérés? Combien de personnes vous avez
Beaucoup. Aujourd'hui, on peut lister autour un peu plus de 6000 personnes que nous avons eu à donner du...
6000, c'est beaucoup.
Beaucoup, oui, parce que, regardez, les nouveaux bâtiments actuel et le bureau du chef de l'État actuel à l'Union africaine, OUA, pour les Quinois, ils connaissent ça au nom de
OUA. La cité de l'OUA.
La cité de l'OUA. C'est mon père Fernel qui avait construit ces bâtiments, ces bureaux et ces résidences sous la couverture de Malta Forest, habillé en Malta Forest. Mais tous les agents sont mes agents, puisque j'ai travaillé comme sous-traitant de Malta Forest à cette époque. Mmh. Et donc, on a dû donner à plus de 1500 personnes du travail pendant 2 ans. C'est beaucoup. Et donc, on fait comme ça avec beaucoup d'autres structures. On donne du travail. Mais et c'est là aussi la difficulté, le problème. Nous devons nous grandir. 20 ans après, il faut que la société grandisse et devienne plus importante qu'avant. Mais le poids de la fiscalité, le poids des charges freine nos entreprises pour se développer. Et il n'y a rien qui se fait au niveau de l'État pour aider les sociétés locales à pouvoir supporter moins de charges, à être un peu plus souple sur le plan de la fiscalité pour qu'elles avancent. Il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui s'est fait. Moi, par exemple, depuis 20 ans, je n'ai bénéficié d'aucune aide, d'aucune assistance quelconque. Mais il n'y a pas que moi, il y a d'autres entreprises qui sont avec moi. Et donc, comment voulez-vous que nous puissions nous développer pour donner plus du travail aux Congolais? Je pense qu'il faudra que les autorités voient quelle est leur priorité finalement. On a vu que le président a choisi six créneaux,
et parmi lequel l'emploi.
Mais on fait comment? L'emploi doit s'organiser et il doit y avoir une mobilisation, une organisation.
Oui.
Moi, je vous dis que je suis une société locale congolaise qui existe depuis plus de 20 ans. Je n'ai aucune autorité congolaise qui est venue, qui nous a envoyé un courrier ou quelque chose comme ça pour que nous puissions nous rencontrer et parler de la question de l'emploi. C'est quand même assez curieux.
Peut-être qu'avons-nous les approcher.
Qui sont au pouvoir? C'est quand même approcher. Pas moi. Chacun de nous doit assumer sa responsabilité. Moi, je. Bon. Donc, voilà. C'est pas moi qui ai décrété. La diminution de la baisse du chômage. C'est des gens qui ont cette responsabilité, qui doivent agir en premier. Parce que moi, imaginons que je vais rencontrer le ministre de l'Emploi. Qu'est-ce que je vais... J'ai pas de leçon à lui donner. Il connaît son travail, donc c'est... Bon, bref. Je vois personne.
Oui.
Je veux dire, mes difficultés sont là. Mais il n'y a pas que moi, il y a toutes les autres entreprises locales qui rencontrent la même chose. On a parlé de l'entrepreneuriat. On a dit que les entrepreneurs, leur difficulté, l'avantage, c'est qu'ils ont beaucoup d'idées, ça foisonne dans le cerveau,
mais ils n'ont pas d'argent.
Mais les poches sont vides.
Oui.
Alors, ça veut dire quoi dans d'autres pays? Dans d'autres pays, dans ces conditions-là, il y a ce qu'on appelle les dispositifs mis en place par l'État pour aider ces jeunes entrepreneurs pour créer leurs entreprises. Oui. Et je pense que l'État congolais a mis un certain nombre de dispositifs. Il faudra
que le travail... Il y a par exemple le FONJEC, le Fonds des Garanties.
Il faudra que le travail de vulgarisation se fasse peut-être de manière plus importante, mais je pense que ça se fait. Entre-temps, il y a du côté du privé, il y a les banques qui sont là. Parce que quand vous entendez la Banque mondiale, vous entendez le discours de la Banque mondiale, le discours de FMI, le discours de IFC, toutes ces institutions qui financent, qui viennent en aide aux pays en développement, comme le nôtre. Ils disent que oui, nous voulons aider le secteur privé. Et quand ils veulent aider le secteur privé, ils passent par les banques. Ils passent par les banques privées pour que les banques privées entrent en contact avec les entreprises locales. Mais c'est une difficulté. Ça veut dire dans quel sens les banques vont entrer en contact avec les entreprises locales. Ça veut dire que lorsqu'une entreprise, un Congolais, veut créer sa société, vient avec son projet pour demander, solliciter un crédit, un accompagnement d'une banque, que la banque accepte de l'accompagner en le finançant sur son projet. Et cet argent que la banque va financer le projet viendrait de la banque, de ce que la Banque mondiale a déposé, de ce que le Fonds monétaire a déposé, etc. Mais c'est compliqué.
Et la banque, vous allez retourner l'argent avec des intérêts ou pas?
Bon, c'est normal. C'est normal. Sinon, ça deviendra la gratuité. C'est normal.
Bien, un instant, monsieur Jean-Robert. Nous parlons aujourd'hui de l'insertion professionnelle des jeunes. Nous avons en ligne Malonga de Bandundouville et Omar Kigalo de Kinshasa. Bien, Malonga, bonjour.
Oui, bonjour aujourd'hui, bonjour à notre invité, à tous ceux qui nous suivent.
Quelle est votre question?
Bon, ma question aujourd'hui, je vais m'atteler seulement pour dire que le recrutement en République démocratique du Congo est déjà criqué aujourd'hui. Tout ce que l'invité vient de dire là, c'est bon. Tout ce que mes confrères ont déjà dit, c'est bon. Mais pour être sélectionné et être intégré dans n'importe quelle société ou bien quelle entreprise, il faut être préchoisi d'abord au préalable avec quelqu'un. Ce que nous voyons, ça, c'est une formalité aujourd'hui. Je vous dis, c'est la réalité. Vous aussi, vous êtes un air de Congolais, vous connaissez. On peut afficher les recrutements. On peut afficher toutes sortes de offres d'emploi. Mais si vous n'êtes pas encore présélectionné, vous n'aurez jamais l'accès à ce travail-là. Pourquoi? Puisque c'est ça le monde actuel. On ne sait pas si on va changer encore ça. On étudie, il y a les jeunes qui étudient. Vous le savez, à chaque année, il y a des promotions qui sortent. Les emplois sont là, en ligne, tout ça. Et on fait ça, mais il n'y a aucune bonne réponse à ces demandeurs-là. Alors qu'est-ce qu'on peut, on peut dire, même au ministère de l'État. Non.
Je crois qu'on mélange beaucoup de choses.
En tout cas, c'est grave.
D'accord, merci beaucoup. Maître Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi, bonjour à l'invité.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'insertion professionnelle des jeunes?
Oui, premièrement, je tiens à poser ma question à l'invité. Il y a eu récemment une rencontre entre les chefs de l'État et les entrepreneurs. Plusieurs résolutions ont été prises. Mais jusque-là, on ne voit aucun résultat. Qu'en est-il réellement? C'était une simple réunion pour présenter des vestes et des bons foncés où il y avait vraiment un travail fait. Deuxième chose, nous l'avons toujours dit, monsieur Jody, le travail, c'est à la fois un droit et un devoir. L'accès au travail n'est pas une faveur que le gouvernement donne aux Congolais. C'est de leur droit. D'ailleurs, l'invité le sait, dans l'indice de développement humain, parmi les critères pour qu'on dise un pays développé, c'est l'accès aux revenus. Au Congo, ce n'est pas la réalité parce que beaucoup de chômeurs résistent. Mais je voudrais que l'invité prochainement, lorsqu'il viendra, qu'il précise. Parce qu'on parle du travail, on fait allusion à toute activité qui procure à l'homme un avantage. Ça peut être un travail indépendant, tel est mon cas. Je suis avocat, je ne travaille pas chez quelqu'un, je vis de manière indépendante. Il y a aussi des travaux de collaboration. Mais si je dis, travaille avec tel ami dans une société qu'ils ont créée comme associé. et aussi les travaux d'exécution. Je suis agent de l'État, je travaille pour l'État. Donc lorsqu'on intervient, lorsqu'il faut parler de l'insertion, tenez compte prochainement de chaque spécificité. Pour finir, moi je pense qu'il y a deux problèmes sérieux. Le premier couac est mental. On a affaire à des vieux qui ont travaillé dans tout le régime et qui ne veulent pas céder la place aux jeunes. On doit se le dire. Parce qu'il y a un problème sérieux, nous parlons du chômage. Depuis que je suis né, c'est le seul pays au monde où quelqu'un a été président du Sénat et accepte de devenir deuxième vice-président du Sénat. Avec de tels comportements, on ne veut pas céder la place aux autres, rien ne marchera. Mais le problème mental, c'est aussi nous-mêmes jeunes. Mon prédécesseur a dit quoi ? Le recrutement a toujours été complaisant. Non, dans ces pays, il y a des entreprises sérieuses. Vous postulez et vous réussissez. Donc c'est quoi que mental au niveau de vieux, mais opposés politiquement qui ne veulent pas céder la place. Nous-mêmes jeunes aussi, nous devons croire que c'est possible de le faire. Pour finir, monsieur Jody, les conditions dans lesquelles nous travaillons. Et je voudrais directement que l'invité me réponde sincèrement. Parce qu'il est dans le placement des services et du personnel. Comment vous traitez les gens que vous sous-traitez? Aujourd'hui, les gens qui sont dans la sous-traitance sont presque des esclaves. Le code du travail existe, qu'on soit dans le travail public ou privé ou indépendant. Il y a des conditions de travail. Combien vous le payez? Est-ce que vous respectez les SMIC? Est-ce qu'ils ont droit aux soins de santé? Est-ce que vous leur payez les frais de transport? Est-ce qu'ils sont inscrits à l'inscription sociale pour qu'après leur travail, qu'ils aient la retraite?
D'accord.
Voilà les choses qu'il faut que quelqu'un ait découragé.
D'accord.
Donc,
merci beaucoup, plusieurs conditions
doivent être réunies.
Tout à fait.
Je veux qu'ils me répondent sincèrement comment ils traitent les gens qui sont sous leur retraite. Parce que moi, je suis avocat.
Okay.
Les entreprises de placement payent mal et sous-traitent de manière esclavagique.
D'accord. Monsieur, ici, il faut hâte de répondre à toutes ces préoccupations. Vous avez la parole.
Bonjour, maître. Je pense que de la même façon que vous avez fait remarquer que il n'y avait pas de séparation, qu'on ne faisait pas la distinction sur les différentes manières de la notion de l'insertion. Et d'ailleurs, je me pose la question si vous avez bien suivi le débat depuis le début, puisque cette différence a déjà été faite. Je vous ai parlé de la fonction publique et de du secteur privé. Et l'insertion, vous avez l'insertion professionnelle, vous avez l'insertion sociale, etc. Dans la de manière globale, vous avez le public et vous avez le privé. Dans le privé, vous avez le libéral et vous avez ceux qui sont salariés. Mais c'est vrai que si on avait assez de temps, on pourra aller plus loin sur la question de l'insertion, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je vois que vous êtes vraiment dans la confusion totale sur ce qui concerne la sous-traitance du personnel. Et je vous invite à bien regarder, consulter vos documents pour bien comprendre ce que c'est la sous-traitance. Je vous explique en gros. Parce que vous n'êtes pas le seul. Vous êtes quelqu'un de bonne foi. Vous êtes avocat, ça veut dire que vous êtes instruit, vous avez fait vos études, et il n'y a aucune raison que vous puissiez être ignorant. Je pense que c'est tout simplement que chacun de nous a son secteur d'activité là où il est fort. Vous êtes juriste, peut-être spécialisé dans un autre domaine qui n'est pas le domaine du travail. Dans le domaine du travail, la sous-traitance dans notre pays se fait de manière un peu différente. Dans le sens où il y a des sociétés existantes, hein, donc des sociétés de tutelle, ce qu'on appelle sociétés de tutelle, qui ont leur propre, qui ont créé leur propre sous-traitance. Est-ce que vous comprenez ça? Qui ont créé leur propre sous-traitance.
Ce qui est contre
ça,
la loi.
Ça, c'est ce qui est contre la loi.
Oui.
Ça, c'est la première chose qu'il faut voir. Avec leur rémunération, ils payent à leur manière. Il faut pas confondre les choses. Ma société, par exemple, SCS, moi, je suis pas un inspecteur du travail. C'est pas à moi d'aller contrôler ce qui se fait dans les entreprises en matière de sous-traitance. Lorsque vous parlez de la rémunération, et c'est là vraiment que se caractérise l'ignorance, mais pas de vous personnellement, hein, mais de manière générale, nous, on rencontre beaucoup d'avocats. Mais c'est pas parce que on peut pas tout connaître, hein, je le critique pas vraiment, on peut pas tout connaître. C'est juste que chacun de nous a sa spécialité. En ce qui concerne la rémunération, sachez, monsieur, que ce n'est pas la sous-traitance, ce n'est pas la société de la sous-traitance. Une sous-traitance qui a un cabinet, avec des consultants comme ma société, SCS. Moi, j'ai toute une structure avec des consultants, avec une administration, toute une organisation. Quand je vais, je trouve du travail pour mes candidats. Tenez bien, quand je trouve du travail pour mes candidats, ce n'est pas moi qui fixe la rémunération de mes candidats qui sont acceptés dans telle banque, dans telle société. Vodacom, Bracongo, Robank, Equity ou je ne sais pas comment.
Ils discutent directement avec le candidat.
Ouf, ils ne voient même pas le candidat. Ils me voient. D'accord. C'est moi qui défends la cause de candidat.
Oui.
C'est moi qui pars avec le CV, les CV de candidat et qui défend la cause de candidat.
Mais ces gens, il ne reste plus beaucoup de temps.
La rémunération, c'est fixée par les clients. Et si vous, la sous-traitance, vous êtes trop exigeant, on vous met de côté,
on prend quelqu'un d'autre.
Et donc, c'est comme ça. Nous-mêmes, nous sommes victimes. Parce que, regardez, pourquoi le sous-traitant ne peut pas accepter, ne peut pas payer moins un travailleur?
Bon, monsieur Jean-Robert, on termine dans une minute. Qu'est-ce qu'on retient par rapport à l'insertion professionnelle des jeunes? On n'a plus beaucoup de temps. Vous reviendrez pour nous donner d'autres détails. Alors, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on retient?
Vous avez retenu que c'est pas la sous-traitance qui fixe le salaire. C'est le client, l'entreprise qui engage, qui fixe le salaire. C'est pas le sous-traitant.
D'accord.
Donc, il faut apprendre. De manière générale, l'État doit organiser les choses. Nous voyons dans certaines banques, je prends un exemple, nous voyons dans certaines banques qui ont commencé leur travail avec des Congolais, parce que c'est des questions vraiment sérieuses, avec des Congolais, et qui, lorsque la société se développe, on fait partir les Congolais, on engage les gens. Les gens d'origine, les propriétaires de la société.
Mais c'est Jean-Robert ici,
si l'État ne prend pas des mesures pour protéger l'emploi des Congolais, on aura toujours ce problème d'insertion professionnelle des Congolais.
Vous allez revenir, nous allons en parler prochainement. Okay. Monsieur Jean-Robert ici, merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci infiniment.